Vous écoutez
RMC.
Les paris, on y va? Attention, c'est bien Pilorger qui est devant 435, qui est devant Thiago Silva. Alors, attention, faisons un petit état des lieux des parieurs qu'on a autour de la table. Pierre Calamusa, joueur de poker professionnel, ça c'est pas du pari. Et parieur, tu paries toutes les semaines?
Non, je parie de temps en temps quand ça me prend ou quand j'ai de bonnes infos.
Les grosses compètes, tu passes pas ma mère. Roland Garros, c'était à bloc.
En fait, moi, j'ai découvert comment devenir riche, c'est que chaque année, je misais sur Rafael Nadal à Roland et je doublais ma mise. Quoi, c'est quand même assez sympathique.
Nadal, il t'a bien rincé.
Ouais, Nadal. Imagine si tu à chaque année, il est à peu près coté à 2, donc tu doubles ta mise si jamais tu mises sur lui.
Oui, sauf si tu mises 10 balles, il faut en mettre un peu plus.
Peu importe le montant, en fait. Généralement, quand tu mises, on raisonne en termes d'unité que essayer de faire un profit. Après, moi, je mise aussi souvent pour simplement pour m'amuser et pas, pas rechercher
le Nadal, combien t'avais pris la fois le dernier?
J'avais pris 25 000.
Ah oui.
25 000. Mais, et puis, c'est aussi, avant de commencer, j'imagine, ce chapitre.
Donc, t'avais mis 50 000.
J'ai gagné 25 000. J'ai misé 25 000 quand t'as deux.
On double.
Si on estime qu'il a 50% de chance de gagner, ça veut dire qu'on ne fait pas d'argent. Si on estime qu'il a 51% de chance, on va marger 1%, etc., etc. C'est des mathématiques basiques.
Daniel est largué, ça y est.
Et moi, je veux pas tarder à être largué. C'est pour ça que je pose vite tes questions maintenant, mais il le sait.
Non, et c'est l'occasion quand même de rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Il y a très peu de gens qui arrivent à vivre du betting et que c'est une discipline qui peut être aussi dangereuse. Ça me rappelle un petit peu le poker où, tout le monde pense gagner et finalement, quand on regarde la réalité des statistiques et la réalité des portefeuilles, il y en a très peu. Donc, surtout pour les jeunes, faites attention, ayez une pratique raisonnable, toujours misez ce que vous pouvez perdre et ne vous rendez pas malheureux à faire ça. Et puis, si jamais vous êtes très fort dans
votre
domaine...
Merci Pierre pour ce message.
Non, si vous êtes très fort dans votre domaine, effectivement, il y a des gens qui peuvent en vivre, mais c'est très très dur. Il faut se taper les matchs de foot biélorusse à 5h du mat, les matchs de tennis.
T'as pas fait les championnats biélorusses là au mois de juin là? T'as fait un peu?
Si, j'ai fait un peu le Torpedo Belaz. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont forts, mec.
T'as acheté le maillot ou pas?
Le Dynamo Brest, Belchina, Nechaef, but.
T'as encaissé un peu avec les Biélorusses?
Ouais, j'ai pris pas mal. Biélorusses, c'est pas. On peut, par exemple, faire beaucoup plus d'argent sur les championnats mineurs qui sont mal connus par les traders, les bookmakers, plutôt que sur des grosses affiches, des offres d'appel comme ça, comme la Ligue des Champions où il y a beaucoup plus de data, il y a beaucoup plus, toutes les informations sont quasiment disponibles. Et là, c'est très dur de battre ça.
Alors, Polo, toi, t'es là et tu as mis en place un algorithme qui pourrait être révolutionnaire. Alors, explique tout ta démarche.
Alors, l'algorithme, donc, il faut savoir qu'il traite que des données mathématiques.
D'accord.
Donc, comme disait Pierre, il est surtout rentable sur les petits championnats. La Biélorussie, ça tombe bien pendant le confinement.
Donc, toi, tu prends jamais en compte la qualité d'un joueur, les blessés, le classement, tout ça. C'est
tout
quoi?
Ce qui est relié à l'émotion, à l'intuitif, n'est pas pris en compte. Toutes les données qu'on prend sont directement chiffrables. Donc, nombre de tirs, nombre de buts sur les trois dernières saisons, ainsi de suite. On récupère des milliers de données. L'algorithme les traite. Bien sûr, chaque donnée a une pondération différente. Et en sortie, on affiche simplement des pourcentages. Et comme disait Pierre, à partir de certains pourcentages, le rapport gain-risque est avantageux. C'est ce qu'on expose aux parieurs.
Là, tu comprends, Daniel, jusque-là?
Oui, jusque-là, ça va.
N'hésitez pas si c'est pas clair.
Non, ça va.
Tout.
Non, mais ça dénature tellement.
Alors, il faut qu'on ait un exemple précis. Là, par exemple, j'ai vu que tu faisais. Il y avait un pari de la semaine sur Retafe Gironde. C'était le match de barrage en Espagne, par exemple.
Peut-être, oui.
C'était la semaine dernière. Il y a 15 jours, là. C'est des barrages espagnols.
C'est pas Retafe.
Non, ça fait un moment qu'on n'a pas attaqué les championnats européens.
Bon, alors c'est moi qui me suis trompé alors. Bah, donne-nous un exemple précis pour que tu vois sur un match récent que tu as en tête là.
Par exemple, la demi-finale de Ligue des Champions, prenant Lyon-Bayern. La cote du Bayern était seulement 1,22. Par contre, l'algorithme disait qu'il y avait 92% de chances que le Bayern gagne. Donc, c'est ce qu'on appelle un value bet. Le rapport gain-risque est avantageux, il faut aller parier. Par contre, s'il donnait moins de 60%, par exemple, il ne faut pas parier. Le rapport gain-risque n'est pas avantageux. Et pour revenir sur la Ligue des Champions.
L'algorithme disait 92% pour Bayern.
86 ou 92.
Et sur quoi il basait ça? Il y avait quoi comme information
Les adits. Sur les trois dernières saisons, on récupère des milliers de données. Bien sûr, vous imaginez bien que la saison d'il y a trois ans n'a pas le même impact que la saison actuelle.
Bien sûr, parce que les joueurs peuvent changer.
Tout à fait. Et par contre, l'état de la pelouse, l'absence des joueurs, tout ça n'est pas pris en compte. Parce que c'est des paramètres qui sont très durs à chiffrer, à pondérer finalement.
L'absence des joueurs, putain, si dans une équipe il te manque Messi ou Ronaldo.
L'absence des joueurs est pas pris en compte.
Non, ça, on a bossé pendant 12 mois avec une école d'ingénieurs parisienne.
Par exemple, Lewandowski se blesse avant le match, il rentre pas dans la compo, ça change pas les odds.
Non, c'est pas pris en compte. Un problème.
Attends, alors à ce stade de ton développement, Polo, là je me tourne vers le technicien. Monsieur Courbis.
Ah, j'avoue que.
Toi, tu peux pas fonctionner comme ça. Toi, non, t'as besoin de savoir qui est là, qui est pas là. Comment on joue, etc.
Non, mais ça fait rien. J'écoute quand même. J'ai pas la prétention. Heureusement pour moi, d'avoir la bonne façon de jouer. Je suis quand même, contrairement à ce qu'on pense, assez prudent dans ce que je joue. Et là, effectivement, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est pas les stats d'il y a 3 ans, tout ça, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, sur les 15...
Mais si un algorithme peut te dire, là, vu les stats, t'as 92% de chance que la cote à 1,22, elle sorte.
Ben, je vais évidemment regarder, je vais même le remercier de me donner toutes ces données, mais ça va pas m'empêcher de voir un petit peu la forme, de lire un petit peu de ce qui se passe dans certaines blessures de joueurs, d'écouter dans les confs.
Non, mais ça, c'est pris en compte, etc. Ça, la blessure, les machins.
Non, les absences sont pas prises en compte, mais cette analyse-là personnelle est complètement complémentaire à l'algorithme. Nous, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, on le met à disposition, ça vient compléter votre analyse personnelle qui est tel joueur ne jouera pas.
Et puis, si j'ai bien compris, tu donnes aussi un pourcentage de réussite en fonction de la cote qui est affichée. C'est-à-dire, est-ce que la cote est intéressante à jouer ou pas?
Tout à fait, ça c'est le rapport gain-risque, entre guillemets.
Le rapport gain-risque, c'est quand même très important au moment du pari.
C'est le plus important, finalement.
Voilà, parce que si...
C'est quoi exactement le rapport gain-risque?
Par exemple, tu as un match de tennis et on estime que c'est 50% de chance de gagner des deux côtés, d'accord? Je sais pas, on va te prendre un petit... Djoko Federer il y a 4 ans à Wimbledon, on va dire, quelque chose comme ça. On va, alors, pour le point d'inflexion, ça serait que la cote sera 2 pour les deux joueurs. C'est comme un flip, un tirage de pièces, rouge noir.
Okay.
Et alors, si je suis
alors,
jamais.
Pas joué, contre, alors, ce match-là.
Alors, ça dépend. Si jamais tu te rends compte que le bookmaker a sorti les cotes à 1,20 d'un côté, à 2,20 d'un côté et 1,80 de l'autre, bah, tu vas forcément aller vers le mec à 2,20. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Tu vas faire un profit. Parce que tu seras plus payé.
Tu vas faire un profit, vu que c'est super serré, t'en sais rien.
Mais si, 50-50, et tu seras payé plus de 2 fois ta mise.
Oui, mais bah ça, je comprends pas.
Mais bah, par exemple.
C'est comme si tu faisais un lancer de pièces.
Ouais. Je te donne un exemple. Atalanta, Paris Saint-Germain. L'Atalanta, la cote, je la connais pas parce que je parie pas régulièrement, mais on va dire, je dis une bêtise, la cote est à 7. D'accord? Contre le Paris Saint-Germain qui a une cote à 1,20. Toi, en tant que personne qui suit un peu l'Italie, qui suit le travail de Gasperini, qui voit que l'Atalanta fait une énorme saison, ouais, mais là, ça dure depuis plusieurs mois.
Ton exemple est pas mal parce que je suis sûr que l'algorithme de Polo là-dessus, il va te dire de pas parier.
Non, mais je pense que
est-ce que si t'as 10 euros à mettre, tu vas les mettre sur le PSG pour gagner 2 euros ou est-ce que tu vas les mettre sur l'Atalanta?
Ça
va pas non plus.
Justement, je vais essayer.
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la cote, elle est quand même intéressante à jouer ou pas?
Alors je me mouille.
Roland et Pierre ensuite. Et après
je pense que je vais arriver à faire comprendre à Daniel ce qu'on veut dire. Si moi-même déjà j'ai bien compris. Quand par exemple on discute nous en tant que passionnés des matchs de samedi ou dimanche, il y a par exemple un Lille-Rennes, le troisième contre le quatrième, etc. On regarde les compositions d'équipe et tout. Attends, avant que je te fasse une proposition. Et que, je te dis, Daniel, tu sens quoi dans Lille-Rennes, là où Rennes-Lille? Et tu me réponds, ce match, il était Nessi, c'est du 50-50. Mais je te dis que la cote de Rennes, c'est 4, et celle de Lille, c'est 1,20. Eh bien, je vais m'amuser à jouer Rennes.
Exactement.
Je vais jouer d'un match que je pense qui est indécis. Je vois plutôt un nul. Et moi, comme je suis plus prudent, je vais me mettre le nul avec moi. Et je vais jouer Rennes et le nul. Ce qui fait que d'une cote à 4, je vais la descendre à peu près à 1,80 ou 1,90. Mais j'ai 2 chances sur 3. Parce que ce qu'on oublie dans le football par rapport à certains sports, moi ce qui m'intéresserait plutôt c'est de jouer dans d'autres sports plutôt que dans d'autres championnats, dans des sports où pratiquement il n'y a pas de match nul, dans des sports où pratiquement il n'y a pas de match nul. Oui, évidemment il y a le tennis, je pense au basket, je pense au rugby. Évidemment que là tu as une chance sur 2 puisque le nul il est très rare, alors qu'en football on ne se rend pas compte, mais quand on joue une équipe,
oui, t'as une chance sur 3.
On joue une chance sur 3. Alors j'espère que si on joue une chance sur 3, au moins que la cote ne soit bonne.
Oui, ouais, bien sûr.
C'est ce que tu voulais dire.
Mais c'est exactement ce que Roland vient de dire. Si vous voulez parler de manière simple, vous allez établir, selon votre analyse, un pourcentage de chances que votre équipe gagne ou qu'il y ait un nul ou que l'autre équipe gagne. Et ensuite, le rapporter à la cote et déterminer si la mise est intéressante ou pas.
Polo, tu veux rajouter un truc sur ce que tu entends là ?
Non, c'est ce qu'a dit Laurent, c'est tout à fait juste.
Roland,
ce qu'a dit Roland est tout à fait juste. C'est exactement comme ça qu'on calcule un rapport gain-risque. Alors, soit on le fait avec des analyses personnelles, soit des outils mathématiques, peu importe. Mais c'est l'idée exactement.
Et quel est ton parcours toi, pour avoir fait ça, créé cet algorithme ?
Alors, j'ai fait une fac de maths dans le sud de la France, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Marseille. Et je me suis lié d'amitié avec un de mes professeurs et on a co-créé cet algorithme. Moi, je me devais de financer mes études. On a co-créé ça pendant 9 mois et demi et j'ai pu financer mes 3 ans de scolarité ensuite. Et aujourd'hui, je vis encore de ça.
Donc, c'est-à-dire que là, les gens qui utilisent cet algorithme, ils vont payer pour pouvoir l'utiliser ?
Alors, il y a une partie gratuite, une partie payante. Il faut savoir qu'il y a une semaine gratuite pour accéder à toutes les prédictions, à absolument toutes les fonctionnalités, sans aucun engagement. Et à partir de ça, c'est 7,99€ par mois.
Et toi, tu gagnes, toi ?
Mais moi, je vis des paris sportifs encore aujourd'hui.
Ah ouais,
ce qui est marrant, c'est que tu disais que par exemple,
t'es pas passionné de foot.
J'adore le foot depuis tout petit, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. J'adore le foot et j'ai bien conscience que cet algorithme n'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas 100% de réussite. Ouais. Tout ce qui fait la magie du football, elle existera. La remontada en 2017, personne ne pouvait aucun algorithme ne pouvait la prévoir.
Dans les stades, c'était 0%.
Sûrement. Il n'y avait pas l'algorithme à ce moment-là, mais
okay, est-ce que tu as, afin que ça parle au plus grand nombre, est-ce que tu as, pourcentage de réussite, je sais pas, sur deux mois derniers
Prenons par exemple la Ligue des Champions, qui est pourtant un championnat, enfin une compétition très populaire. Depuis la reprise, l'algorithme a détecté 9 matchs sur lesquels parier, il y a eu 8 sur 9. Il s'est trompé que sur la finale, ce qui fait que ça fait 45% de retour sur investissement finalement.
Ah, vous aviez.
Ah, c'est pas mal.
L'algorithme
donné Paris gagnant à 46%.
L'algorithme, il a pas
donné Paris gagnant à 46%.
Pardon ?
Il donnait Paris gagnant à 46% pour Bayern ?
Tout à fait.
Pourquoi les cotes étaient
selon quelle data ? Hein ? Les experts.
Quels sont les facteurs qui ont fait que Paris était aussi haut ?
Par exemple, le nombre de buts marqués sur les 3 dernières saisons en Ligue des Champions, le nombre de buts encaissés à domicile en première mi-temps, ainsi de suite. Il y a des milliers de facteurs. Je peux pas tous te les citer, ça va être très long.
Ça me paraît fou.
Mais regarde, j'ai une question qui je pense, est importante. Est-ce que votre algorithme prend en compte le fait que les matchs soient à huis clos ? Parce que, par exemple, on a vu dans les championnats qui ont repris qu'il y avait beaucoup plus de victoires à l'extérieur que dans un championnat normal.
Oui, on l'a adapté, ça. On s'est rendu compte qu'en effet, l'importance de jouer à domicile ou pas, elle était quasi nulle. Ouais. Et donc, on a diminué ce qu'on appelle la pondération, l'importance de ce facteur-là.